Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, qui analyse, décortique, critique, encense plusieurs fois par semaine les shows de la WWE et consorts. Nous sommes à SmackDown pour le 8 mai, pas de jour férié, jour férié d'ailleurs aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas, juste avant le plus historique Money in the Bank du monde, et comme le dit tonton Chris, a priori, oui, jour férié, donc vous l'avez compris, il est là, c'est notre mémoire, notre encyclopédie, notre under tonton à nous. Je suis Raphaël et je suis avec Chris. Comment vas-tu, Chris ?
Salut Raphaël, hier, yeah. Salut peuple catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, as usual.
As usual, donc tu confirmes le 8 mai, il est férié aussi chez les gagnants de la guerre, bah oui.
Bah ouais, c'est un petit peu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc bon, globalement,
c'est leur victoire, ouais.
Voilà, c'est un petit peu, ouais, ils étaient un petit peu quand même présents, les Américains, donc du coup, ils y pensent au 8 mai.
C'est sûr, c'est sûr, mais je t'avoue, je ne me suis pas, voilà, tu vois, je ne me suis pas renseigné sur cette partie socio-historique, je connais pas trop le relationnel des États-Unis avec leurs days off, mais en tout cas, bah voilà, nous ne sommes pas en armistice, au contraire, c'est toujours la guerre. La guerre est bleue, il y a plein d'affrontements qui vont avoir lieu à SmackDown pour préparer donc ce Money in the Bank historique. Je rappelle, si vous ne le saviez pas à nouveau, que dimanche, voilà, dans le pay-per-view des échelles pour gagner la mallette, il va falloir grimper du parking jusqu'au toit du WWE Building. Il faut passer par tout ce qu'on peut, les ascenseurs, les escaliers, si on veut, les salles d'entraînement à la muscu, la cuisine, le bureau de Vince McMahon. On peut aller se jeter du haut du toit, mais voilà, le reward vaut les risques, comme ils nous diront tout le long de la soirée, ça vaut le coup. Et on aura donc les deux matchs féminins et masculins en même temps, ce qui promet d'être un joyeux bordel pour suivre un peu les caméras et tout ce qui se passe, mais bon, on va voir ça plus tard, on n'y est pas encore. En attendant, on règle les comptes qu'il restait à régler. Le premier affrontement de la soirée, c'est une vieille amitié qui s'est transformée en rivalité. Eh oui, c'est triste, mais ça arrive relativement souvent quand même à la WWE. Sonya Deville affronte Mandy Rose. Donc auparavant, on voit Otis qui motive un peu Mandy et Dolph qui motive un petit peu Sonya. Sonya, elle a l'air très motivée d'ailleurs. Ben voilà, elle le dit, hein, c'est 5 ans de frustration, 5 ans d'amitié qui ont servi à rien, qu'elle va pouvoir expulser ce soir. Elle commence par dominer au sol en attaquant Mandy Rose, en essayant de la tordre un peu dans tous les sens. Mais Mandy se relève, sort une série de closest lines. Elle envoie Sonya Deville se taper la tête contre la table des commentaires. Elle l'envoie à travers la table d'ailleurs des commentateurs. Et ils reviennent ensuite sur le ring. Donc Mandy Rose a plutôt le dessus. Elle s'élance en rebondissant dans les cordes, mais Sonya Deville évite un coup de pied. Elle place un roll-up et mon dieu, 1, 2, 3, elle gagne cette rivalité. Michael Cole a quand même estimé ça comme l'un des matchs et des rivalités les plus émotionnelles et les plus intenses de ces dernières années. Je ne sais pas si tu es d'accord, l'ami Chris, sur cette issue du match.
Bon, être d'accord avec Jerry Lawler, déjà, c'est quelque chose de compliqué pour moi.
Michael Cole.
Michael Cole, pardon, ouais.
Mais quand même.
Obsédé par Jerry Lawler. Mais Michael Cole, ouais. Eh ben écoute, que dire, ça a duré 5 minutes la petite affaire du match au final. Hein, quoi, ça ne m'a absolument pas intéressé une seule seconde. Donc, comme de toute façon, toute cette rivalité ne m'a absolument pas assez intéressé depuis le début. Donc je continue à être totalement hermétique à ça. Et voilà, et puis bah, entre les cordes, hein, c'était pauvre, hein, mais c'est toujours pauvre avec Mandy Rose entre les cordes. Sonya Deville mériterait à la rigueur d'avoir quelque chose de mieux à se mettre sous la dent et peut-être participer un petit peu, entre autres, à ce qui se passe au niveau de la compétition dans la division féminine bleue, quoi, tu vois. Genre, s'intéresser à une ceinture ou un truc comme ça, enfin, un truc de compétition, quoi. Voilà, donc écoute, voilà mon avis sur cette affaire qui a été. Ouais, qui est pauvre, qui est pour moi une grande pauvreté. Puis qui finit pas l'histoire, parce que c'est ça, c'est que là, on est loin d'être dans une histoire terminée, là. Donc on est appelé à en reparler dans de prochaines reviews.
Ouais, malheureusement, je pense effectivement, je l'avoue, hein, j'avais peut-être pas beaucoup d'attentes, hein, comme toi, hein, c'est pas une FUD qui nous a emballés, on en a déjà parlé. Mais alors oui, le match était un peu nul, et effectivement, vu comment Sonya Deville nous vendait le côté « je vais me venger de 5 années de frustration », j'espérais qu'elle essaye de gagner autrement que sur un roll-up un peu volé comme ça. Bon, voilà, j'aurais bien aimé qu'elle « prove le point », comme on dit, qu'elle la démonte un peu à Mandy Rose, mais bon, je ne sais pas, ça viendra. C'est sûrement la première manche, comme tu dis, et peut-être qu'on aura d'autres affrontements, donc ça, c'était pas très emballant pour commencer SmackDown.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Ça partait pas sur les chapeaux de roue, cette affaire.
Ça partait pas sur du haut niveau, mais peut-être que la suite va nous emballer un petit peu plus. Alors, on part chez les hommes et chez la division tag team, puisqu'on a une grosse affiche. Là, on a du monde sur le ring. On a les New Day, les Lucha Dragons, qui vont faire équipe ensemble, équipe commune à 4, contre le Miz et Morrison.
Les Lucha House Party.
Les Lucha House Party, pardon. Oh, c'est vrai.
Les Lucha Dragons.
C'était vieux, ça. Ouais. Les Lucha House Party, c'est plus les mêmes. Ouais. Bon, de toute façon, ils ont tous des masques, on ne sait plus si c'est les mêmes ou pas. Non, Donc, et par contre, en face, ouais, y a les petits nouveaux qui sont les nouveaux un peu en force. Il y a les Forgotten Sons avec le Miz et Morrison. Donc, on nous annonce que ces quatre teams, là, ce soir, elles font deux, les gentils d'un côté et les deux méchants de l'autre. Mais à Money in the Bank, ce sera un Fatal 4-Way pour le titre par équipe. Donc, comme nous le rappelle Michael Cole, mais dis donc, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Le New Day peut perdre sans être pris à partie dans le tombé. Oui, ce que, à quoi on lui rétorque que bah, c'est le cas depuis pas mal de temps là, dans la Tag Team Division à SmackDown, puisqu'on a des triple threats et tout ça, tout ça. Bref, on part pour le match qui est un match assez rythmé. En tout cas, ça tourne vite. Hein, j'ai pas vraiment de description détaillée parce que voilà, les méchants commencent par dominer, mais on a pas mal d'alternance d'un côté comme de l'autre entre les Forgotten Sons, voilà, le Miz et Morrison. De l'autre côté, on a un petit peu tout le monde aussi qui passe. Kofi Kingston, à un moment donné, place son SOS sur le Miz, mais il y a un near fall. Les Lucha House Party enchaînent. Sur John Morrison, les Forgotten Sons à l'extérieur du ring ont réussi à choper Big E, ils lui replacent son finisher là, avec le pied qui s'écrase sur la poitrine. Ils font de même, ils essayent aussi de neutraliser Kofi Kingston. Pendant ce temps, Morrison déroule, il se fait plaisir, il tente un Starship Pain qui va être évité par l'un des Lucha House Party, je ne me souviens plus lequel. Je crois que c'est... Ah oui, c'est ça, c'est Lince Dorado qui ensuite place une espèce d'énorme Huracan Rana.
Ouais, comment c'est ça? Lince Dorado aussi va placer un double springboard stunner des familles. Quoi.
Un vraiment, stunner sur...
Lince Dorado, il a fait une belle perf pendant ce combat.
Ouais, malheureusement, il écrase le crâne de Morrison sur le ring, mais ça ne sera pas suffisant puisque le Miz était tapis dans l'ombre. Il était l'homme légal. Il place, lui, son skull crushing finale et il l'emporte. Donc les méchants gagnent, mais on ne peut pas dire que ça soit la grande entente. Hein. Les Forgotten Sons et Miz et Morrison, ils se toisent, ils s'invectivent, on comprend pas trop ce qu'ils... Voilà, ils se reprochent un peu des trucs, de pas trop s'être soutenus sur le côté, bref. Tout ce monde-là va se mettre sur la gueule de toute façon dans deux jours, donc il n'y a pas besoin de se faire des copains. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé de cet affrontement assez rythmé, hein?
Ouais, et puis presque 20 minutes de catch, quoi. Ça faisait une éternité que c'était pas arrivé, un truc comme ça à SmackDown, quoi. Un match aussi long. C'était assez, assez surpris, quoi. Mm. Mais donc du coup c'était pas trop mal, ouais. J'ai bien aimé les hommes masqués.
Ouais.
Ils avaient fait une belle perf et du coup ça m'a plutôt plu, cette affaire. C'était plutôt pas mal, un des meilleurs matchs que j'ai vu à SmackDown tag team, en tout cas, je sais pas, ouais, mais un des meilleurs matchs en tout cas que j'ai vu ces dernières semaines. Mm. Ces dernières semaines ont été tristes. Donc écoute, sur ce coup-là, un bon point à la Tag Team Division.
Ouais, c'était l'avantage pour le coup d'avoir plein de mecs sur le ring. Ils ont tous, ma foi, c'était plutôt sympathique parce que j'ai trouvé qu'effectivement, de manière plus générale, les équipes bien en place, comme le New Day et le Miz et Morrison, ont laissé la place au Lucha House Party d'un côté et puis au Forgotten Sons qui continue un peu d'avoir ce rôle des méchants violents là, assez stiffs et un peu crado, donc ça remet tout le monde bien, j'ai trouvé, là, pour ce Fatal 4-Way qui arrive. Tout est possible, bon, ça peut, on peut imaginer une reprise de, bon, peut-être la Lucha House Party, ça va être les gros outsiders, les plus bas sur la carte, mais on peut imaginer une prise de titre surprise des Forgotten Sons, on peut imaginer le Miz et Morrison qui ça a bien vendu l'affiche qui va arriver.
Ouais, c'est pas mal. Moi, je suis assez intéressé par ce Fatal 4-Way. On en parlera peut-être à la fin sur la carte de Money in the Bank. Mais,
yes.
Mais écoute, en tout cas, c'est un bon prélude. Ce qu'on a vu là était un bon prélude. Et franchement, je te dis, je boude pas le plaisir d'avoir vu 20 minutes de catch solide dans le vide intersidéral, toujours
ah, oui.
La salle. Mais au final, le match en lui-même a tenu ses promesses pour moi.
Ouais, ils ont été solides. Ils ont été solides et avant, après ça, nous allons quelques instants en coulisses avec, avec la petite Kayla. C'est pas Charlie, hein, mais bon, c'est SmackDown.
Ouais, c'est moins bien déjà.
C'est un petit peu moins bien. Bon, elle fait des efforts. En tout cas, elle croise Baron Corbin qui va juste. Enfin, King Corbin, pardon. Qui va juste un peu trasher tous ses futurs adversaires du Money in the Bank en disant que ouais, c'est lui ouais. qui va gagner. Rien de très original.
Next.
Next. Alors le next, c'est un peu plus intéressant. Jeff Hardy est de retour. Après, il avait fait un premier retour, un premier comeback victorieux. Il avait remporté un match et puis on ne l'avait pas vu pendant 4 semaines. Le temps d'apprendre plus sur sa carrière, sur ces 4 clips qu'on a eus. Voilà, le début, la chute, la rédemption, le retour, etc. Donc il est avec Renee Young au milieu du ring. Et elle lui demande un petit peu qu'est-ce qu'il lui reste en fait à prouver, à montrer pourquoi il revient. Jeff Hardy nous explique que voilà, il a eu des très hauts et des très bas, il a eu des bas que personne d'autre, que pas grand monde ne peut connaître. Hein. C'est sûr, voilà, moi j'ai jamais été arrêté pour trafic de drogue et voilà. On n'a pas tous voilà les mêmes bas comme il nous dit, mais lui tous ses bas, ses moments bas et low west l'ont appris qu'à chaque fois, bah, il pouvait remonter la pente justement. Donc bah, il a envie de. Il est toujours là et voilà, il demande à ses fans qui sont pas là dans l'arène malheureusement, mais dont il peut entendre les chants Hardy, Hardy, Hardy. Il dit bah voilà, soutenez-moi encore une fois pour un dernier run. Alors voilà, ça va être un peu la fin de carrière, mais on va essayer de faire au mieux, c'est un peu ce qu'il nous dit. Pendant ce temps-là, Sheamus, il est dans les coulisses, il regarde ça à la télé, il commente. Alors là voilà, comme cet oncle relou là qui commente les débats sportifs ou les débats politiques qui t'empêchent d'écouter ce que disent les gens, qui est là, ouais, non, mais c'est de la merde, mais n'importe quoi, bref. Il finit par arriver, d'ailleurs, Jeff Hardy l'attendait, hein, il disait, je suis un peu surpris que Sheamus m'ait pas encore interrompu, Sheamus arrive. Il dit, voilà, bah ça y est, on a le junkie à l'adrénaline qui vient réclamer sa dose, même s'il n'y a pas de public, il pourra pas avoir sa dose d'adrénaline. Alors évidemment, Jeff, tu es une légende, etc., patati patata, mais les fans là, commencent à être bien fatigués de toi. On en a marre de tes suspensions, de tes départs, de tes no-shows, de tes échecs. On en a marre que t'aies 20 fois une deuxième chance. Donc tout le monde sait, dans les coulisses, personne ne te le dit en face, mais tout le monde sait que ta prochaine erreur arrive là et au coin du mur. Donc Sheamus, il veut tout simplement en finir avec Jeff Hardy, le faire taire, en finir avec sa carrière. Il s'approche du ring, mais il sera un peu cueilli à froid, le Sheamus, puisqu'il va prendre un Whisper in the Wind, un Twist of Fate, un Swanton Bomb et emballer ses pesées. Jeff Hardy est de retour. Et l'Irlandais repart un petit peu la queue basse. Hein, là, grosse désillusion pour le Celtic Warrior.
Ah ouais, le Celtic Warrior, là, s'est pris quelques giflettes là, sur la fin de segment. Quoi. Mm. Donc voilà, truc assez classique. Pareil avec le retour à la promo pour le Jeff Hardy. Et puis effectivement, cette interruption quasiment demandée par Jeff Hardy qui se termine en autre boudin pour le Celtic Warrior. Voilà, donc ça y est, bah, rivalité installée, j'ai envie de dire, ça y est, mission accomplished. Voilà, on va voir sur quel genre de choses ils vont emmener les deux, mais écoute, en tout cas, je préfère voir ça que voir Sheamus démonter des mecs toutes les semaines comme on l'a vu pendant des semaines et des semaines.
Ben oui.
Ça y est, là, ils rentrent dans le dur avec une vraie rivalité et on va voir ce que ça va donner.
Le pauvre Denzel Desjournettes doit apprécier.
Ouais, voilà. Un peu de repos pour lui.
Ouais.
Et voilà, les personnages s'installent, la rivalité s'installe. Bon, écoute, allons-y.
Ouais, je pense qu'on est d'accord. Ça, Jeff Hardy, ils ont l'air de vouloir lui donner ce dernier run de qualité, faire quelque chose de pas trop mauvais, de pas trop low card. Reste à voir un peu les qualités sur le ring. D'ailleurs, Jeff Hardy, à un moment donné, lui renvoie à Sheamus. Sheamus qui lui dit, voilà, tout le monde en a marre de tes arrêts, de tes blessures, t'en as pas marre de revenir. Il lui dit, bah ouais, mais toi... Bah, t'es un peu pareil, hein. C'est vrai que Sheamus il a fait quelques blessures et quelques arrêts assez longs où on suspectait une fin de carrière. Donc voilà, une feute de vétérans, de mecs qui n'ont plus rien à prouver, qui ont été champions plusieurs fois, qui se sont croisés oui, dans la feude à l'époque des Hardy contre The Bar, mais qui l'interaction en un contre un paraît assez inédite, hein. Moi je trouve assez intéressante.
Ouais, écoute, à voir sur la suite.
À voir sur la suite. Pour le moment, on n'a pas d'avis négatif, en tout cas, a priori, sur la feud. Enfin, peut-être que vous, parmi les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça scandaleux de faire affronter deux quadragénaires au lieu de les mettre, justement, à jobber contre des petits jeunes. Mais voilà, nous, on est plutôt pour. On est plutôt d'accord.
Ah, c'est une feud de mid-card, de vétérans, écoute.
Voilà.
Ouais, des gars multititrés. Ah oui. Bon, écoute, avec un Jeff Hardy qui semble se diriger de plus en plus vers la fin, donc. Alors
Ouais.
que le Sheamus, moi, me semble, au contraire, lui, en pleine bourre, quoi, en pleine forme. Hein. Parti pour des années encore. Hein. Il est en pleine forme, le rouquin.
Ah, ça c'est difficile à pronostiquer. Hein. C'est en soi, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il est. Il a eu quelques périodes un peu plus difficiles, donc c'est un peu compliqué de savoir. Puis je trouve que voilà, il va falloir. Autant Jeff Hardy, son personnage revient très très vite. Autant Sheamus, il faut le travailler là un peu plus. On a un peu. C'est pas qu'on a oublié, mais ça paraît un peu du passé, la carrière de Sheamus. Je trouve on a du mal à l'imaginer là à nouveau, tu vois, champion du monde ou quoi que ce soit. Il va falloir le
Ah
construire un petit
ouais,
peu.
il aura du mal à faire son retour dans la top carte, quoi. Et puis en plus,
Ouais.
moi je trouve qu'il s'était brillamment reconverti dans une carrière de tag team avec Cesaro. Et
Ouais.
que moi j'aimais beaucoup The Bar. Et
Ah oui.
c'est bien dommage que cette team ait disparu. Alors qu'ils sont finalement tous les deux à SmackDown, Cesaro et Sheamus, et qu'il n'y a jamais eu de séparation véritablement officielle dans cette équipe, hormis le fait de la blessure. Et donc du coup c'est un petit peu dommage quoi parce qu'il était voilà il s'était fait une belle deuxième carrière en catcheur par équipe.
Ouais, ça c'est. Tu fais une très bonne remarque. Alors là, on va avoir cette feud contre Jeff Hardy et ça devrait être bien pendant quelques semaines. Mais ouais, moi, s'il y a un truc que j'appelle de mes voeux, c'est faites-nous un rappel de The Bar. Faites-nous. Bah soit on intègre Sheamus dans cette espèce de gang de méchants avec Nakamura et Cesaro, soit on fait une feud. On fait une feud, quoi. On nous explique un peu. Pourquoi, voilà, il y en a un qui dit à l'autre, voilà, tu m'as jamais rappelé, tu m'as oublié quand je me suis blessé. Bon, c'est des classiques, hein, ça s'écrit tout seul. Donc ça serait quelque chose qu'on aimerait bien voir en 2020. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, en attendant, on part au niveau de la Universal Championship Picture. Voilà, le champion universel, c'est Braun Strowman. Et il confronte son adversaire de dimanche, Bray Wyatt. Donc Strowman arrive le premier, il nous dit, voilà, Bray joue avec ses marionnettes, là, ses machins, parce qu'il a peur de moi. Bray Wyatt arrive, voilà, avec son pull rouge et son sourire, toujours à l'identique, avec la Firefly Funhouse sur les écrans. Il est désolé, Bray Wyatt. Il dit, moi, je voulais juste des excuses. Je voulais juste que tu t'excuses de ce que tu as fait, que tu demandes pardon. Et puis en plus, moi, voilà, je t'ai fait. Je suis ton créateur. Je te connais par cœur, donc je sais tout ce que tu vas dire. Je sais tout ce que tu vas faire. Et surtout. Je sais ce qui est bon pour toi, et Bray Wyatt le dit, ce qui est bon pour toi, Strowman, c'est de ne pas être au milieu de tous ces gens-là, c'est de revenir à la maison, de rentrer avec nous chez toi, quoi. Et Braun, il refuse tout ça, il réfute cet argument, il dit non, non, tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. Et Bray essaye de l'amadouer, il lui sort son masque de mouton noir, il lui dit vas-y, allez, rentre. Et toutes les marionnettes le réclament, hein. Abby, The Witch, le cochon, Skin, le. Même le lapin, tout le monde le réclame. Et là, vas-y, reviens, 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 Braun, reviens. Mais Braun refuse. Il dit, moi, je suis là. Là, je suis à la maison. I'm home. Et j'ai le Universal Title. Et à Money in the Bank, je resterai champion. Et toi, tu seras bloqué dans ton monde irréel à jouer avec tes marionnettes. Ouais. Et du coup, il lui fait un grand sourire, Braun Strowman, à Bray Wyatt. Et il lui dit, bah. Bye, see you Sunday. Il se moque un petit peu de lui, il imite la Firefly Funhouse. Braun s'en va, mais Bray Wyatt reste au milieu du ring. Et il dit I tried. Donc j'ai essayé, Braun, j'ai essayé de. Sous-entendu, j'ai essayé de te convaincre, j'ai essayé de faire ça bien, mais sorry, il est désolé. Donc voilà, il est désolé de ce qui va se passer, en gros, hein, c'est ça qu'on devine. Voilà, c'était le dernier face-à-face avant que ces deux hommes-là ne s'affrontent. Ça sera bien cette affiche-là, hein, a priori, le Fiend ne sera pas n'est pas dans l'air, mais c'est Bray Wyatt, le patron de la Firefly Funhouse, qui réclamait voilà le retour de son mouton, de son petit mouton noir à la bergerie, mais le mouton noir s'est transformé en loup et il refuse de venir de rentrer au bercail. Donc est-ce que ça te hype pour l'affrontement là? Est-ce que tu trouvais que c'était intelligemment fait cette interaction?
Alors moi j'ai trouvé que l'entrée, en fait j'espérais quand la musique du Firefly Funhouse s'est déclenchée, j'espérais qu'on allait voir le Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse et pas sur le ring. J'ai trouvé que l'entrée elle était super cheap, je sais pas, ça a démystifié le truc, même, enfin je sais pas, même s'il faisait son entrée en mode gamin, tout ça quoi, je sais pas, ça a pas trop pris sur moi. Et j'ai trouvé la promo de Braun Strowman hyper monocorde, voilà quoi, sans aucun relief. Le finalement, à part le passage où Wyatt voilà, tend le masque noir de mouton à Strowman et la réaction de Strowman en fait à la toute fin quand il a fait bye bye. Voilà, et là ça j'ai trouvé ça plutôt bien fait, mais je suis resté à pas mal de marbre en fait devant tout ce truc là quoi. Ça m'a pas, je suis plutôt hypé pour le match, mais moi je suis déçu parce qu'on va avoir Bray Wyatt face à Strowman. Ouais. J'aurais voulu The Fiend quoi, et ça m'aurait paru beaucoup plus destructeur. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que finalement, en terminant comme ça, Braun Strowman, voilà, j'ai pas peur. Moi, je suis un méga monstre, je vais te défoncer, tu vois. Au moins, je trouve que c'est assez cohérent avec le personnage de Braun Strowman finalement, cette toute fin de segment. Voilà, mais c'est le truc. Moi, j'aurais pas fait venir Bray Wyatt dans le ring. Voilà, moi j'aurais continué les vignettes, mais bon, bah, écoute, ils ont choisi ça. Sur moi, ça a pas super bien pris. Peut-être que sur d'autres, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, sur moi en plus.
Ben moi, je trouve que le problème, c'est que le parti pris qu'ils ont depuis cette feud, depuis qu'elle a commencé, c'est que non seulement ça ne prend pas sur toi, mais justement, c'est que rien de ce que dit Bray Wyatt ne prend sur Braun Strowman. Donc en fait. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. C'est Bray, il lui fait les histoires avec le mouton, il lui sort le masque, il lui sort les puppets. Et comme tu dis, Braun, il reste monocorde, il reste le menhir, là, qui dit juste « Ouais, je m'en fous ». Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr que si on rentre pas dans le mind game, bon, Braun Strowman, pardon, il est pas trop du genre à faire des mind games. Donc, à part une petite blague, voilà, à la fin, « Bye, see you Sunday ».
Ouais, tu vois, par exemple quitte à faire aller pousser le truc jusqu'au bout, puisque c'est Bray Wyatt, moi je l'aurais fait venir en Bray Wyatt, mais pas le Bray Wyatt de la Firefly Funhouse. Je l'aurais fait venir arriver avec son petit chapeau, avec sa chemise à fleurs, son pantalon crade blanc. J'aurais fait un espèce de revival comme ça, quoi, de faire réapparaître le gourou, tu vois, dans le Go Home Show. Faut pas oublier qu'on était dans le Go Home Show, peuple de catch-up de Money in the Bank. Donc dans le Go Home Show, ça aurait été sympa, tout d'un coup, tu vois, une apparition du gourou. Il serait arrivé dans le ring, là, ça m'aurait paru moins cheap. Bon, bah là, il est arrivé avec son pull rouge en mode Bray Wyatt du Firefly Funhouse. C'était cheap, quoi, voilà, quoi. Et du coup, moi, j'aurais fait revenir le gourou de la Wyatt Family.
Bah, d'autant plus, et on va pas arrêter de le dire, et on n'arrête pas de le dire, c'est que nous sommes dans une émission sans public et qu'on peut enregistrer. Et t'as raison, moi je pense que la twittosphère, comme on dit, ou en tout cas les réseaux sociaux, se serait complètement enflammé si on avait vu arriver, Bray Wyatt façon Firefly Funhouse, pull rouge d'un côté du ring, et puis tout d'un coup de l'autre côté une espèce de lumière, et on voit Bray Wyatt, époque Wyatt Family, avec sur le rocking chair qui regarde avec sa lampe. Enfin, il y aurait eu moyen de faire un truc comme puisque...
Tu vois que tonton Chris, il a des bonnes idées des fois.
Ah, mais il a de très bonnes idées. Et en plus, ouais, c'est ça l'histoire qu'on nous dit. On nous rappelle. On jette un voile pudique sur Harper et Rowan, mais on nous dit bien que voilà, c'est ça. C'est à cette époque-là que tout s'est joué.
C'est exactement ça qu'on nous vend, quoi. Tu vois, quoi, avec le masque de mouton noir et tout ça, quoi. Donc faut aller au bout du truc, quoi. Au bout du truc.
Ça aurait été une belle idée. Après. Clairement, on comprend tous, là, je pense que l'affrontement aura une version The Fiend plus tard et que la rivalité va se poursuivre. Donc,
oui.
Ce segment peut encore arriver, mais c'est vrai que c'est étrange. Pour le moment, ils utilisent cette carte un peu là avec Bray Wyatt qui est assez. Mais ça me fait beaucoup penser à Finn Balor avec son démon. Hein. C'est pourquoi un jour c'est Finn Balor qui vient et pourquoi l'autre jour c'est. C'était le démon, enfin là maintenant c'est plus trop le cas à NXT. Mais...
Voilà, le démon il a disparu là quand même.
Voilà, mais là c'est pareil, pourquoi à TLC c'était Bray Wyatt contre le Miz et pas The Fiend, et pourquoi un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, c'est un peu, enfin voilà, disons que là il y a l'historique des deux qui explique que ça soit Bray Wyatt plutôt l'humain qui réclame Braun Strowman, mais bon... Ouais, bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, là, je vois pas du tout. Bon, on va pronostiquer plus tard, mais j'ai du mal à imaginer Braun Strowman perdre si vite là contre Bray Wyatt. Et puis là encore, la différence de gabarit est quand même assez frappante. Hein. De toute façon, avec Strowman, oui, tout le temps, mais.
Oui, tout le temps, ouais, de toute façon. Donc.
Mais voilà. Bon, mais écoute, Bray Wyatt, Braun Strowman, on verra en tout cas ce que ça donne Ils peuvent encore, pour le coup, nous faire des surprises le jour J, hein, ça, dimanche.
Enfin, face à Strowman, il n'y a que le bel homme qui peut se mettre en face. Quoi.
Ah, bah,
il n'y a que Drew McIntyre qui a une stature et encore en plus musculeux en plus, quoi, en version plus dessinée, quoi, en version dieu grec. Ah, en version ouais. William Wallace.
tu l'aimes, hein, ton Drew.
Ah oui, mon Drew.
Il aime bien son
écho. Quand on est à SmackDown, c'est toujours dur un peu de se détacher de Raw et de ne pas penser au bel homme.
Ah, bah ça, je te comprends bien. Alors, écoute, on va voir si en te mettant des jolies femmes, enfin, des femmes, en tout cas. Après, question de goût. Hein.
Oui, voilà, exactement, les goûts et les couleurs.
Toutes les femmes sont belles, etc. Mais voilà, donc là, on a un tag team match. Lacey Evans et Tamina qui affrontent la championne Bayley et Sasha Banks. Donc, sachant que ce dimanche, c'est un 1-1, hein. Tamina a son ticket contre Bayley. Lacey Evans, elle... Et dans le Money in the Bank, hein, c'est bien ça. Et Sasha Banks est nulle part d'ailleurs. Sasha Banks n'est nulle part.
Absent.
Voilà, out of the picture. Bref, le match commence avec une Tamina qui, bien sûr, impose sa force physique sur Bayley, mais qui très rapidement est dominée par un travail à deux des deux heels, hein, qui vont la coincer, essayer de la taper un petit peu dans le coin. À un moment donné, Tamina réussit à les envoyer l'une contre l'autre et à reprendre un petit peu le dessus. Les méchantes essayent de fuir, mais Lacey Evans les en empêche. Elle fout un gros coup de coude qui met un peu KO Sasha Banks. On part à la pub, et quand on revient, Lacey Evans est en train de dominer Sasha Banks. C'est assez rare. En général, quand on revient de la pub, c'est toujours les heels qui dominent. Mais Bayley, à un moment donné, s'interpose. Elle pousse un cri là. Hey, hey, hey. Elle arrive à empêcher Lacey Evans de placer un saut depuis le turnbuckle. Et puis, voilà, ils arrivent à distraire la Marine. Les filles travaillent à deux, les méchantes travaillent à deux sur Lacey Evans. Et Bayley reprend un peu la force, donc hop, Tamina revient dans le game, mais elle se fait bien contrer. Bayley lui place même un Bayley to Bayley suplex, puis une descente du coude. Là, c'est son enchaînement finisher sur Tamina, et ça ne passe pas. Near fall, la challengeuse prouve qu'elle peut se défaire de la prise ultime de la championne. Donc déjà, ça nous en dit long pour ce qui peut arriver dimanche. Lacey Evans revient dans de ses os pour envoyer un gros Roman Reigns dans la tronche de Sasha Banks, qui l'aura pris souvent ces derniers temps. Et Tamina enchaîne Super Kick et Samoan Drop. Elle réussit à pin la championne. Donc, qui arrêtera ? Peut-on arrêter l'irrésistible force dont on crie ?
Bayley. Ah là là, quelle question ! Quel suspense !
Quelle passion !
Ça serait... Oui, ce serait ça. Et si Tamina est championne ce week-end, là, les murs vont trembler, quoi, hein, parce que là, ça serait historique. Ça serait le premier, elle toucherait son premier titre, Tamina. Elle a peut-être été championne des Divas, peut-être. J'ai un doute. Tiens, dans les commentaires, peuple de catch-up, éclairez-nous de vos savoirs, de vos connaissances. Je me demande si Tamina a déjà gagné une fois le titre. Mais voilà, en tout cas, elle a un title shot. Ouais. Face à une Bayley insipide comme on le relève semaine après semaine, et ça change pas beaucoup. Au final, Bayley s'achève, elle perd encore un match, hein, encore une fois en weekly. Hein, c'est loin d'être la première fois que ça arrive, ça aussi. Donc voilà, dans un match pas super intéressant. Voilà, une sorte de preview du match féminin entre Bayley et Tamina, quoi. Malgré tout, j'ai du mal. On en reparlera à la fin sur la carte, mais sur le prono de la carte. Mais bon, c'est voilà. Est-ce qu'on est super intéressé par cette rivalité ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est largement dû au règne de Bayley ? Je crois un petit peu. voilà.
Oui, moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est toujours pas. Enfin, c'est moyen. Effectivement, Tamina, voilà, a été relancée. C'est la grande force de ce.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est le truc. Ouais.
Pourquoi pas. Après, c'est pas non plus une artiste du ring, Tamina. Donc, ça, l'affrontement 1-1 fait un peu peur. On peut imaginer très probablement qu'il y aura Sasha Banks hein, en coulisses, sur les bords du ring, puisque, comme on vient de le signaler, elle n'a pas d'autre programme. Donc il y aura une intervention, un truc, je ne sais pas.
Ouais, elle va très certainement traîner dans le coin, que ce soit dans le Money in the Bank match comme dans le match Tamina versus Bayley, quoi, de toute façon.
On verra bien ce qu'il en est dimanche, mais voilà, les championnes, enfin la championne peut s'inquiéter, hein, là il y a 48 heures de grosse préparation technique parce que ça peut être pas facile à vivre pour Bayley ce dimanche ce soir. Nous venons de voir Lacey Evans à l'œuvre. Pendant ce temps, en coulisses, nous interrogeons les deux autres participantes du Money in the Bank côté SmackDown, un plateau qui fait rêver, Dana Brooke et Carmella. Voilà, qui vont nous dire à peu près, Dana Brooke, elle va nous dire personne s'attendait à ce que je batte Naomi, personne, mais je vais mettre tout en jeu et puis ça vaut le coup. Et Carmella, elle nous dit mais bien sûr que c'est un avantage de l'avoir déjà gagné deux fois, comme c'est mon cas, et ben je vais le gagner encore une fois, et puis voilà, et tout va bien. Donc bon, bah voilà, classique, hein. De toute façon, ça fait des années que ça dure pour nous hyper, hein, dans les Go Home Show. Tout le monde nous dit qu'il va gagner, et au final, il n'y en a qu'un qui gagnera. Donc, rien de très nouveau.
C'est la dure loi de la jungle.
La dure loi de la jungle. Ah bah ça va être une grosse jungle. Hein. Ça va être une grosse jungle. Ça va être une grosse jungle, mais il nous reste le main event avant de passer définitivement au pronostic et à la carte du Money in the Bank. Donc, c'est un...
Avant le main event, en fait, il y a eu, je sais pas si tu as fait gaffe, il y a eu un petit package vidéo. Qui présentait les images du siège social à Stamford.
Si, ouais.
T'as vu où ils annonçaient un peu les conditions du match, etc. Quoi.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça dingue parce que ça faisait un petit peu spot immobilier. Voilà, on met en vente un magnifique siège social.
C'était ça.
Vide, complètement vide. Voilà, quoi. Ouais. Et quand même, au bout de quelques images, quand tu te rends compte tout ce qu'il y a à traverser, les cantines, les bureaux, la salle de sport, t'as vu la salle de sport de malade qu'ils ont, quoi.
C'est clair.
Une cantine de fou malade aussi, hein. Nous, au boulot, on n'a pas une cantine comme ça, hein.
Ouais, non.
Et après que tu passes dans les salles de réunion, bureaux et compagnie, et j'ai remarqué que entre les derniers étages où on montrait les bureaux, après, il y a un passage d'escalier avant de monter.
Ah, bah...
tu vois, il y a un passage d'escalier, donc ça veut dire qu'il va y avoir une phase aussi où ils vont être peut-être un peu engorgés. Dans le, tu vois, entre les derniers bureaux, les escaliers et l'accès au toit, quoi. Donc à cet endroit-là, à mon avis, il va se passer des choses, tu vois.
Ouais,
et,
c'est sûr.
Et un autre truc aussi qui a été dit pendant, on en a pas parlé, mais ça a été pendant le show qui a été dit là de SmackDown, c'est que apparemment le match va pas être filmé d'un bloc. Le match va être filmé, il pourrait y avoir par exemple. Voilà, le début des deux matchs Money in the Bank, et qu'il y ait des vignettes au fur et à mesure, pendant qu'il y a les matchs simples qui se déroulent dans le Performance Center, il pourrait y avoir voilà, un passage sur ce qui se passe pendant le Money in the Bank match, hop, on revient sur un match confiné, on va dire.
Ah.
Et en même temps, il pourrait utiliser, alors là, moi j'ai horreur de ça, donc j'espère qu'ils ne vont pas le faire, mais ils pourraient utiliser en fait la technique du double écran.
Ah oui, oh là là.
Mais moi, ce qui m'étonne sur ces. Parce que bon, on va dire que ça, c'est plus ou moins ce qui a été expliqué à SmackDown, mais le double écran, ça vient plus un peu de toutes les rumeurs qui tournent autour du pay-per-view. Et si tu veux, le double écran, ouais, c'est un problème parce qu'on ne va pas du tout s'intéresser à ce qui se passe pour le match qui se passe au Performance Center. Et en plus, je suis étonné parce que la carte est quand même très, très, très short.
Ouais.
Donc, je suis un peu surpris de ça, quoi. Mais bon, écoute, on va voir. Enfin, il y a tellement de trucs qui tournent autour de ce truc-là. Que ça peut, ça, on peut s'attendre à tout.
Ouais, bah écoute, j'avais raté l'info, donc tu fais bien de le souligner. Oui, c'est une possibilité. On fait démarrer tout le monde et puis après on met les autres matchs. On n'a pas un très bon passif avec ça. Hein. Moi, le seul truc à laquelle ça me fait penser, c'est ce fameux match de Dean Ambrose contre Luke Harper où ils étaient partis en voiture. Tu sais,
ouais.
Ça, c'était pas terrible.
Ah voilà. Bah moi j'avais bien aimé, tu vois, pour le coup.
Ah, ça dépend. Mais,
ouais, moi c'était bien passé auprès de moi.
Ouais, c'est vraiment une grosse interrogation. On va en parler plus tard de comment ils vont rendre crédible le fait de qu'il se passe plusieurs trucs en même temps, mais ça pourra pas être en même temps, donc il faudra les entrecouper, effectivement. Il faudra les filles et les garçons. Est-ce que tout le monde. Enfin bref, c'est gros point d'interrogation, mais quand même ouais, on verra bien. Mais on a vu en tout cas que sur le toit, il y a un beau ring, ils ont même mis des faux arbres ou je sais pas quoi, là, des fausses plantes pour que ça s'il y a un petit peu de verdure et des lumières et tout ça. C'est joli, c'est joli. Bah donc voilà, avant de finir, on va passer au main event. Baron Corbin, Cesaro et Nakamura sont en tag team. Les trois affrontent Daniel Bryan et Drew Gulak et un partenaire de leur choix. On a supposé avoir deviné qui ils avaient trouvé en coulisses un peu plus tôt dans la soirée, mais c'était pas officiel. Avant que tout cela commence, alors que les méchants sont sur le ring, nous avons un nouveau hacking de la WWE, nous avons les écrans qui deviennent noirs et puis ces fameux petits points en cercle qui tournent, le fameux hacker qui avait dévoilé l'intrigue Mandy Rose, Otis, etc. Revient pour nous dire, déjà bon on comprend pas trop ce qu'il dit, et il revient pour nous dire pas grand chose de d'habitude, en gros, visiblement il cible les tag teams, hein, il nous montre des choses qui se sont passées entre Bayley et Sasha Banks, il nous montre des trucs qui se sont passés quand Big E voilà, a battu The Miz. pour le titre tag team. Voilà, il va revenir et, la vérité sera entendue, mais voilà, je sais pas pourquoi il cible les équipes, il veut détruire les équipes. Alors est-ce que c'est des bonnes intentions tout ça, ou est-ce que c'est pas un peu méchant là de vouloir venir foutre la merde quand même?
ouais, si, c'est vrai, oui, c'est très très méchant. Ouais. Ouais, et combien de temps il a duré ce match?
Ah, ben bah attends, on va passer au match. Ouais,
ah oui, on va passer au match.
Ouais. C'est pas encore décrit, mais le match a été court, effectivement. Donc, le partenaire de Brian et Drew Gulak, c'est Otis. Voilà, on l'avait deviné, on le savait, mais voilà, Otis est arrivé à notre grande joie. Pas de révélation, pas d'arrivée surprise du genre AJ Styles. Ah, non, on reste sur du facile. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah, Drew Gulak a d'abord pris un peu le dessus sur Corbin, puis sur Cesaro. Il était booké assez en forme, Drew Gulak. Mais comme d'habitude, voilà, les méchants font des interventions de tous côtés. Nakamura va pousser Drew du turnbuckle. Ça va lui permettre un peu de... Ça va permettre aux méchants de reprendre les dessus. Ensuite, Otis passera faire le ménage. Il va passer son caterpillar sur Nakamura. Donc voilà, Otis domine largement Shinsuke Nakamura. C'est la leçon qu'on peut retenir. On a un bel échange entre Gulak et Cesaro, assez technique. Otis se met complètement torse nu, il est on fire, etc. Et puis Drew Gulak va être l'homme légal pendant très longtemps. Enfin, très longtemps. Bon, le match est assez court, mais je veux dire, c'est un peu lui qui prend tout. Pendant ce temps, Otis est envoyé dans le poteau par les méchants. Daniel Bryan aussi est neutralisé. Shinsuke Nakamura distrait Drew Gulak, qui va encaisser un deep six pour la victoire de Corbin. Étonnamment, Corbin n'a même pas besoin de placer son end of days. Il l'emporte comme ça. Il est content. Les méchants tiennent Drew Gulak pour essayer de lui passer un coup de sceptre du roi. Mais Brian et Otis vont intervenir pour éviter tout ça. Tout le monde se met à partir en baston en coulisses. Tout le monde disparaît des écrans, sauf Baron Corbin, qui est le seul au milieu des échelles, à l'extérieur. Et tout d'un coup, une idée germe dans sa tête. Son œil glauque et torve s'éclaire. Corbin va nous chercher une échelle. Il la monte au milieu du ring et il veut prouver son point, comme on dit. Il veut montrer. Il veut aller décrocher la mallette avant que ça soit le match. Brian va essayer de l'en empêcher. Otis va essayer de l'en empêcher. Mais à chaque fois, Corbin va reprendre le dessus et va grimper et décrocher sa mallette et fanfaronner tout là-haut. Mais en général, celui qui décroche la mallette lors du Go-Home Show ne gagne jamais. Donc, est-ce qu'on est rassuré finalement? Et voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match relativement court, hein, c'est un constat. Ah, main event du Go-Home Show.
Main event du Go-Home Show qui a duré en fait en réalité 7-8 minutes, peut-être 9, allez. Mm. Et voilà, et puis bon, voilà, ça se termine à la fin avec toutes les affaires d'échelle. Bon, alors là, moi je t'avoue, un match avec les deux, avec Baron Corbin et Otis dans le même match, pour moi c'est très très dur. Ouais. Ça va être acceptable lors du pay-per-view parce que ils seront dans des conditions différentes, mais là dans un truc classique en mode Corona Mania, donc sans public, et là, oulala, 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 moi j'ai décroché du truc, c'est le cas de le dire, hein, mais moi j'ai pas décroché la mallette, c'est mon attention que j'ai décroché, quoi.
C'est vrai.
Moi je suis sorti du match total, quoi, total. J'en étais totalement désintéressé en fait au bout d'un moment. Quoi.
Et, ah ouais, à ce point.
Et en fait, si tu veux, mon seul espoir, ça a été le moment où ils sont tous descendus ringside et qu'ils ont commencé à se battre. Je me suis dit qu'ils allaient aller backstage, ouais. Et que ça allait partir en vrille. Parce que en fait, en même temps, je tease la baston du mercredi parce que comme à la AEW, ça s'est terminé dans un brawl monumental backstage, je me suis dit, ah tiens, ils vont peut-être un peu copier le voisin et puis ils vont nous faire une bonne grosse bagarre des familles backstage. Mais non, c'est pas ça en fait. Ils sont revenus vers les échelles parce que Money in the Bank oblige. Et puis bah voilà, et puis bah, c'est Baron Corbin qui a eu le dessus, quoi. Mais bon, Baron Corbin, c'est Baron Corbin, quoi. Hein. On est vendredi, mec. Hein. T'as chopé la mallette deux jours trop tôt, je te signale. Et voilà. Et ouais, non, je suis sorti pas mal du match. Ça m'a pas plus intéressé que ça. Ça a été un peu sans plus, quoi. Sans plus, quoi. Sans plus.
Ouais, il y a toujours un con pour trouver malin de décrocher la mallette deux jours avant. Donc ça oblige le technicien à la remonter ensuite. C'est pas très sympathique. Mais moi aussi, j'étais un peu surpris quand ils ont commencé à se mettre sur la gueule. Je me suis dit qu'ils vont partir backstage justement pour nous vendre un peu le pay-per-view et le côté tout va se passer dans l'aréna.
Bah oui.
Et alors, autant moi, j'ai regardé le match avec pas grand intérêt non plus, mais ça m'a pas...
un œil torve.
Voilà. Ça m'a pas spécialement déplu. Non, par contre, le segment final, je regardais à chaque fois Le chrono, pourtant, il restait 2-3 minutes de show, mais là, j'ai trouvé ça vraiment nul et interminable que Corbin monte l'échelle, d'accord. Mais alors, Brian qui arrive une première fois, bon, bim, il prend un coup d'échelle dans la tronche. Otis arrive, ah oui, j'ai oublié de le dire, il y a eu un grand gag. Otis, il essaye de monter à l'échelle, mais il pète les barreaux parce qu'il est trop gros. Donc, ah là là, comment il va faire dimanche, bref. Corbin l'a envoyé dans le poteau, et puis Brian est revenu, et puis Brian a commencé à grimper les échelles, et Corbin l'a foutu, fait tomber dehors. Moi, ça a duré 2 minutes, mais je crois que toutes les 15 secondes ou 20 secondes, je regardais le chrono en disant, bon, c'est fini là, c'est chiant. C'était un peu chiant, et en plus, comme on dit, voilà, on n'est pas dupe, hein, ça prouve absolument rien. Le baron apparaît le plus dominant, donc très probablement il va perdre. C'est peut-être la seule bonne nouvelle que ce segment peut nous donner, mais c'était pas ouf. Moi, en plus, ça m'a fait chier de me dire que mes petits préférés à la limite de ce match, c'est-à-dire les Drew Gulak et Cesaro, eux, seront même pas dans l'équation, donc c'est d'autant plus frustrant, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ben écoute, voilà, c'était en tout cas comme ça que se finissait ce SmackDown. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a trois choses à faire. Il faut qu'on a...
On a du taf, hein, dorénavant.
Le mot de la fin, on va garder le mot de la fin pour la fin ou on fait ça d'abord à...
le top flop note, tu veux dire?
Ouais. On fait ça maintenant, peut-être.
On le fait ça maintenant, ouais. Allez, vas-y, on fait top flop maintenant. Ouais, comme
top
ça,
flop
ouais,
note
voilà,
de l'épisode.
Allez, on évalue ça. Voilà.
Et bah, je t'écoute, Chris.
Alors, et bah, écoute, bah, de toute façon, mon flop, il va... j'aurais pu le mettre à plusieurs choses. Mais je vais le mettre à Sonya Deville versus Mandy Rose parce qu'il y aura vraiment un opener d'une tristitude absolue. Voilà quoi. Moi vraiment, je ne me suis pas intéressé une seule seconde. Moi aussi, j'avais l'œil torve. et vraiment, ouais, non, c'était next, Mandy Rose et Sonya Deville, next. Et mon top, je vais le donner à la Tag Team Division. Pour les 20 minutes de vrai catch donné à SmackDown, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un vrai match de 20 minutes de catch, fût-il de la Tag Team Division. Voilà, j'ai bien aimé mes amis Luchador. Voilà, spéciale dédicace au Double Springboard Stunner de Lince Dorado.
Ouais.
Et ma note, écoute, ça va être ma note la plus haute pour un SmackDown depuis longtemps. Même si y a quelques trucs qui m'ont dérangé, mais je vais pas lui mettre la moyenne, hein, mais je vais lui mettre un 2,25.
2,25. Et bah écoute, tiens, pour une fois, je vais être un petit peu plus sévère que toi. Moi, je vais mettre un 2 parce que c'est pas terrible, effectivement. C'est un peu embêtant parce que je mettrai le même flop et le même top que toi. Allez, pour changer un petit peu, disons que je vais être plus précis sur le top, je vais le mettre plus précisément au Lucha House Party. Allez, top au Mexique.
Allez,
parce que,
voilà, arriba.
Bah, arriba, c'est quand même assez rare qu'on les voit plutôt bien exposés, hein, qui ont l'habitude quand même d'être les jobbers de luxe, donc bien joué les gars, bonne perf, que vous allez nous régaler dimanche. Et bah, alors je vais mettre mon flop, comme je le disais, à ce segment post-main event match, avec ces échelles qui mettent 3 plombes, et c'était chiant, juste on comprenait dès le début, je trouve, que Corbin allait décrocher, donc c'était pas la peine de nous faire croire que Otis ou Brian ou autre allait essayer. Non, c'était assez décevant, donc un petit 2. Et alors, écoute, est-ce qu'on passerait pas au point Gilbert?
C'est le point Gilbert.
Et il est là, Gilbert.
Gilbert.
Alors Gilbert, notre ami Gilbert, tu as des questions pour nous aujourd'hui. Je les ai sous les yeux. Alors il nous demande, je ne sais pas si c'est avec humour ou pas, je pense, si Otis se retrouve à combattre avec des assiettes, de la bouffe, des plateaux dans les cantines de siège de la WWE, est-ce que ça va rester gravé dans les mémoires de l'univers de la WWE?
Gravé dans les mémoires, carrément.
Gravé dans la roche.
Gravé dans la roche. Alors, je sais pas si ça sera gravé dans la roche parce que des segments avec de la bouffe et tout ça, quoi, à la WWE, c'est légion quand même. Hein. Donc, je pense que ça restera peut-être gravé dans les mémoires de Vince McMahon, dans celui de l'univers de la WWE, je sais pas, hein, parce que y en a eu tellement que ça sera un parmi tant d'autres, quoi. Mais bon, comme du coup, Otis est pas mal over ces derniers temps et qu'il a la hype, oui, ça restera certainement pendant quelques jours, en tout cas, dans les mémoires.
Ouais, gravé dans les mémoires, tu y vas peut-être un peu fort, l'ami Gilbert, mais disons que la WWE aime bien les trucs avec la bouffe et aime bien gâcher de la bouffe, parfois à notre grand désarroi. Là, avec Otis et son bon gros bide, ils ont un truc en or, il faut qu'ils fassent un truc. Pour une fois, je vais réclamer un segment dans la bouffe ou dans la cantine. Ça serait, il y a moyen de faire un truc très drôle, du genre Otis qui est en train de se battre à fond et puis tout d'un coup qui se rend compte qu'il y a du dessert ou des
ouais,
os
ouais,
de poulet là.
Tucker qui lui a préparé un truc, un coin ravito quoi.
Un tu petit Tuckerware.
Ouais, voilà, ouais, tu vois, ouais, c'est le moment ravitaillement quoi. Et paf, il y a Tucker qui est derrière un comptoir avec une bonne côte de bœuf.
Ouais. Non, il y a moyen qu'il y ait un truc rigolo, ça c'est sûr.
Voilà, voilà, oui, ils ont moyen de tourner autour du comedy wrestling.
C'est vrai. Alors, dans la rubrique Fantasy Booking, notre ami Gilbert, il nous dit qu'il rêve de voir Lacey Evans gagner, a priori, et faire un cash-in sur Bayley pour le titre féminin de SmackDown, mais au retour du public. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ?
Ah, eh ben, moi, alors, si je donne mon avis le premier, du coup...
Oui, vas-y, vas-y.
Écoute, c'est pas ma favorite, clairement, hein, pour ce Money in the Bank match féminin. Pour moi, la favorite, en fait, j'oscille toujours. Hein, j'ai encore eu même à Raw, là, cette semaine, j'ai eu du mal à me décider entre Shayna et Asuka. Mais si à SmackDown, il y en a une qui doit gagner, je préfère que ce soit Lacey Evans, ouais. Et effectivement, Lacey Evans, elle est bien en capacité d'aller piner Bayley dès le soir même, quoi. Mais alors, lui, il parle en retour du public à SmackDown pas pendant le pay-per-view.
Non, en retour du public, ouais.
Ah ouais, donc ça voudrait dire que Lacey Evans garderait la mallette un certain temps quand même.
Ouais. Ah bah oui, là.
Écoute, dans l'absolu, je suis sur SmackDown, sur le principe qu'une fille de SmackDown gagne la mallette. À choisir, oui, pour moi, entre Carmella, Dana Brooke et Lacey Evans, oui, Lacey Evans sans problème.
Oui, effectivement. Bah, c'est sûr que dit comme ça, bon, c'est plutôt Lacey Evans serait la favorite. Alors moi, c'est dommage parce que je l'aime assez, Lacey Evans, et je trouve qu'elle est vraiment pile dans cette catégorie des personnages qui ont besoin du Money in the Bank. C'est-à-dire, elle a eu des matchs pour le championnat du monde contre Becky, contre Bayley. On a senti qu'elle n'était pas bookée comme étant du même niveau que ces filles-là. Donc, la mallette pourrait lui être fort utile et il y aurait une certaine logique puisque Bayley est championne quand même depuis qu'elle a cash-in. Donc... est-ce que ça serait pas la première fois qu'un titre passe deux fois d'affilée de cash-in en cash-in à mon avis, ça serait une première. Hein,
ça serait peut-être une première, effectivement.
Ça serait peut-être une première, malheureusement, on ne veut pas vous influencer dans les pronostics, mais voilà, Monday Night Raw a laissé filtrer des infos un peu qui pourraient largement faire deviner que la mallette ira du côté du show rouge. Et c'est vrai que Baszler et Asuka ont l'air plus dominantes, mais bon, sur le principe, une victoire de Lacey Evans et un cash-in, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas, moi non plus. Ça me plairait bien. Ah, alors, autre question d'importance. Le fameux hacker de SmackDown, si jamais il se dévoile lors du Money in the Bank, comment est-ce qu'on réagirait ? Est-ce qu'on peut l'envisager ? Gilbert nous dit qu'il serait grave choqué. Ah, calme-toi, bon Gilbert.
Prends les 2000.
Ouais, calme-toi. Le hacker de Money in the Bank, moi j'ai du mal à visualiser comment ça pourrait s'organiser, ça.
Alors, pense qu'il sera impliqué certainement, on va le voir au cours du pay-per-view, mais
oui,
je pense pas qu'il va se dévoiler au moment du Money in the Bank. Ou alors, quoique Lesnar, il s'est bien pris un ticket d'office quand il a
voulu.
Donc pourquoi pas finalement le hacker se dévoile effectivement pendant le match et puis participe au truc finalement. C'est pas fou non plus quoi ce que dit Gilbert à la rigueur quoi, parce que c'est envisageable quoi. Mais je pensais que c'est un personnage, moi j'avais l'impression, la sensation pour l'instant que c'était un personnage qui allait être sur la durée, voilà, qui allait apparaître que comme ça, que dans des vidéos, ça va durer quelques semaines. Et je pensais plutôt à le hacker, pour moi, il allait plutôt apparaître au moment du déconfinement, au moment du retour du public.
Ouais. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, c'est de toute façon, avec ce pay-per-view Money in the Bank, tout est possible en soi, effectivement. Je serais, alors peut-être pas grave choqué comme Gilbert, moi je suis un homme calme et solide, mais ça serait étonnant quand même qu'il le fasse dévoiler si tôt. Ouais. Parce qu'il nous a pas tout dit encore, dès qu'il doit nous parler de la division tag team, il a plein de choses à nous dire, je suis sûr, s'il enregistre tout sur ses petites caméras. Donc moi je le vois plutôt rester un personnage caché pendant longtemps. Ouais, en plus je trouve que ça serait pas spécialement l'enjeu là, Money in the Bank.
Déjà
trop de
trucs. Faudrait vraiment que ça soit un nom très 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 marquant en plus, hein, hacker, hein, s'il intervient à Money in the Bank, hein, dans le pay-per-view.
Oui,
Là, si c'est pour nous mettre un mec, tu vois, de mid-card ou un no-name ou je ne sais quoi, Ou alors, il faut que le mec il fasse 2m50 et 200 280 kilos, quoi. Mais...
le Great Kali, peut-être.
Voilà.
Le Great Hacker Kali.
Pourquoi non, pas.
Pourquoi pas.
Il galère quand même à monter tous les étages. Grosse galère pour le Great Kali, là, quand même, hein, comme stipulation.
Grosse galère. Alors, autre question, est-ce que Sonya Deville a le potentiel pour devenir la prochaine
méchante? Mais il n'arrête jamais, Gilbert.
Ah, il y a encore deux questions.
La vache.
Ouais, il en a plein. Des fois, il nous en donne pas, mais après, il concentre.
Ah ouais.
Bon, est-ce que tu penses que Sonya Deville peut être une top heel dans le roster de SmackDown?
Une top heel. La prochaine méchante du roster après Bayley, c'est ça qu'il dit. Bah pourquoi pas, bah je l'ai dit en fait finalement au début dans la review de SmackDown, j'ai dit que j'aimerais l'avoir utilisé d'une autre manière qu'avec Mandy Rose dans une rivalité qui n'en finit plus, alors qu'elle pourrait être compétitrice et entre les cordes elle a quand même un certain savoir-faire, que ça commence à être une ancienne dans le roster, et pourquoi pas effectivement l'avoir en méchante dans le roster du show bleu, ouais pourquoi pas. Ça manque dans la division féminine de toute façon là, donc moi je suis assez partant.
Ouais, moi je trouve que c'est le point positif peut-être de toute cette feud interminable, c'est qu'elle s'est assez, elle a un peu eu de temps au micro où elle a été pas mauvaise, elle a été pas mal in ring aussi malgré la faiblesse en face de Mandy Rose, donc on est curieux de la voir face à d'autres, mais c'est vrai que cette division féminine de SmackDown est un peu compliquée parce que on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de heal et qu'il n'y a pas beaucoup de face, donc tu vois, même contre qui elle pourrait. Bon, il n'y a que Lacey Evans un peu, hein, parce que Tamina, bon, je vois pas trop. Enfin, ouais, c'est un peu. Parce que sinon, le reste, bon, c'est du Carmella, du Dana Brooke. Mais est-ce que Sonya Deville, il faut la construire, et je pense que si la WWE croit en elle, peut-être que dans un an ou deux, oui, on peut la voir avec un peu plus d'exposition, mais ça ne va pas se faire en deux mois, je pense. Non. Et alors, la dernière question. Mais là, c'est une question un peu ouverte. Hein. Gilbert, il nous demande si Elias pourrait intervenir lors du Money in the Bank Ladder Match contre Corbin ou Cesaro ou Nakamura. Je pense, Gilbert, qu'on peut ouvrir à tout le monde. Hein. Là, c'est tout le monde peut intervenir. Effectivement, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, comme Elias, pourraient mettre leur grain de sable. Voilà, on a plein de gens qui ont des feuds à l'intérieur, à l'extérieur. On l'a vu, même à Raw. Voilà, les Mexicanos, le gang de... Le Vega Boys peut intervenir. Moi, je ne sais pas si tu as une opinion précise, Chris, sur qui vraiment, d'après toi, pourrait être présent.
Je vois pas comment ça serait possible, que ça serait pas possible que le troubadour soit pas présent au Money in the Bank match. Il a des comptes à régler avec Baron Corbin. Donc, de toute manière, fatalement, à un moment ou un autre, il sera avec une guitare en embuscade au sortir d'un escalier ou quelque part, tu vois, dans la brainstorming room. Mais il sera là, Gilbert, t'inquiète pas, Elias sera dans le coin.
Ce qui serait drôle, c'est qu'on voit Baron Corbin qui domine tout le monde, qui arrive dans ses petites marches qui amènent sur le toit, là, un petit peu comme dans la tour Montparnasse Infernale, justement. Il est tout seul, il n'a plus personne derrière lui, il ouvre la porte, il arrive sur le toit, et là, il voit, assis sur une échelle avec une guitare, l'ami Elias qui l'attend et qui chante là-haut. Juste sous les mallettes et qui descend ensuite lui péter la guitare sur le dos, ça pourrait être un segment.
Ah, ça pourrait être joli, ouais.
Ben voilà, on a réglé les questions de Gilbert, mais par contre, on va quand même évoquer un petit peu nos pronostics là. Il est temps de se mouiller, l'ami Chris. Il est temps de. Il est temps de dire. Alors, tiens, je crois. T'as la carte sous les yeux,
c'est ça ? Ouais, j'ai la carte, ouais.
Allez, je vais te passer la main. Tu vas nous lister un peu les affiches.
Écoute, la carte, j'imagine qu'elle est peut-être encore sujette à révision parce qu'il y a vraiment, vraiment pas beaucoup de matchs, quoi.
Donc,
très, très vite. Hein. Donc, pour le SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match entre les Lucha House Party, donc Lince Dorado et Grand Metalik, contre les Forgotten Sons, les New Day, champions en titre, et le Miz versus John Morrison. Raphaël.
C'est pas si facile, hein, je trouve, parce que le contexte de l'absence de public du Corona Mania, je trouve, d'un certain côté, permet de changer plus facilement les règnes. Il n'y a pas cette hype, tu peux te dire, le New Day, ils sont champions que depuis un mois, même pas, depuis deux semaines ou trois semaines. Mais s'ils repèrent des titres, limite, ça me choquerait pas, mais je ne vois pas la Lucha House Party. Forgotten Sons, malheureusement, ça serait dommage pour eux, parce que c'est un peu ce qui est arrivé systématiquement ces dernières années dans la WWE, c'est les équipes arrivant d'NXT, on leur donne très vite le titre un peu pour les installer, mais ça donne rien sur la long terme. Donc je ne le souhaite pas de gagner. Et alors, ces histoires avec le hacker, moi, me laisseraient penser plutôt à un split de Morrison et du Miz. Comme je l'ai déjà dit, je vois bien le Miz devenir de moins en moins catcher puisqu'il a ses shows de télé et ses films. Et Morrison, pourquoi pas avoir une opportunité solo. Donc je vais dire que le New Day conserve, un peu par élimination, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah moi, je vais donner le New Day aussi.
Ah aussi, ok.
Ouais, moi je crois que le New Day va conserver.
Très bien.
Non, c'est un match pour eux. Ouais. J'ai du mal à aller voir arrêter ce règne si tôt.
C'est sûr.
Ou alors, parce que si ça revient à quelqu'un, pour moi, ça serait les former champions, quoi. Ça serait Miz et Morrison, quoi. Ça serait entre les deux qui récupéreraient leur ceinture et qu'ils auraient peut-être pas dû perdre, d'ailleurs, à la base. Mais bon, écoute, au moins, on a un match de compète dans la Tag Team Division, quoi. On a quatre équipes impliquées, sachant qu'il y a d'autres équipes en réserve avec les Heavy Machinery ou d'autres. Un regain pour la Tag Team Division du show bleu. Voilà. Mais je vais donner les news. Alors ensuite, derrière, on a le SmackDown Women's Championship. Bayley versus Tamina.
Moi, je souhaite Bayley garder son titre.
Ouais, pareil. Ouais, pour moi, la même chose aussi, quoi. Bayley va conserver. Ça serait quand même une sacrée foutue surprise que Tamina prenne le titre.
N'interdis pas que Tamina gagne par disqualification, par exemple, sur une attaque de Sasha Banks ou autre. Je vois bien Bayley garder sa ceinture.
Sur un prono un peu plus affûté, ouais, on pourrait donner une victoire par disqualification ou quelque chose comme ça, quoi. Mais Bayley va conserver. Allez, Bayley. Universal Championship, single match, Braun Strowman versus Bray Wyatt.
Moi je mets Bray Wyatt parce que je pense que ça va se poursuivre, hein, la feud, et que je mets Braun Strowman pour que Bray Wyatt puisse appeler le Fiend un peu plus tard et que ça continue. Ouais. C'est pas évident à pronostiquer, mais pour moi, c'est voilà, le gros avantage, c'est ça, c'est qu'ils ont sorti Bray Wyatt pull rouge et que c'est pas un personnage qui nous est vendu comme étant un catcher, hein. Même quand il a affronté The Miz, il était un peu plus, même s'il a gagné, hein, il était un peu plus, il jouait un peu plus le rôle de Monsieur Tout le Monde qui sait pas trop comment catcher et qui catche un peu comme ça à l'énergie, à la colère. Donc Braun Strowman va conserver, mais on aura là pour le coup les mecs, il faut en profiter, faites-nous un packaging, faites-nous disparaître Bray Wyatt du ring et réapparaître le Fiend derrière, comme vous avez fait avec Cena, là, il y a moyen de faire un truc.
Ouais. Bon, moi je donne Strowman aussi.
Ouais.
Je me dis que voilà, le Fiend, ça va être pour après. Donc je pense que sur ce premier combat avec le titre en jeu, je vais donner aussi Strowman vainqueur.
Ouais.
Derrière, on a le WWE Championship, Drew McIntyre versus Seth Rollins.
Je vois Drew McIntyre conservé et j'espère que ça sera un très bon match.
Moi aussi, j'espère que ça sera un très bon match. J'ai de bons espoirs dans ce match-là. On notera que tous les matchs de la carte, hormis les Money in the Bank matchs, sont que des matchs pour des ceintures. Hein.
Ouais.
Mais moi aussi, je vais donner le bel homme. Pour moi, Drew va conserver son titre.
Eh oui.
Il va y avoir de l'overbooking dans ce match. Il va y avoir du clan du Messi qui va vouloir venir un peu mettre le dawa. Donc ça devrait être, à mon avis, ça va être assez intéressant de voir un peu comment Drew va démolir un peu tout le monde. Va envoyer des bons baisers de Glasgow à toute la team du Messi. Mais je le vois conserver, ouais. Ouais. Drew McIntyre, vainqueur par KO, vainqueur par Claymore Kick.
Yes.
Et là, on arrive dans le dur. Donc, le Money in the Bank match féminin. Carmella versus Shayna Baszler versus Nia Jax versus Asuka versus Dana Brooke versus Lacey Evans. Who's your choose?
Mais pas facile, hein, mais il y en a pas mal qu'on peut éliminer déjà. Moi, je vois ni Nia Jax, ni Brooke et Carmella. Moi, je trouvais qu'Asuka avait vraiment une bonne vibe là, et ça serait peut-être ma gagnante de cœur. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent nous survendre un peu Shayna Baszler en destructrice absolue. Et je pense bien, je crains qu'il nous fasse elle va pas démonter tout le monde comme elle a fait à Elimination Chamber, parce que ça va être un long match et il va se passer plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'ils veulent nous la placer un peu comme ils plaçaient Ronda Rousey, un peu au-dessus de la mêlée. Et si j'avais à pronostiquer, si j'avais à donner mon cœur juste comme ça entre nous, je dirais Asuka. Si j'avais vraiment à mettre de l'argent dessus, je jouerais Shayna Baszler.
Ok, bah moi j'en pense comme toi sur le fait déjà que j'en élimine trois d'office, quoi, donc Carmela, Dana et Naya. Et que mes trois, là, voilà, le top 3, ça serait Lacey, Asuka, Shayna. Et moi, en fait, je suis comme toi par rapport au cœur, mais je vais quand même donner mon cœur et ma raison à la même personne, puisque je vais les donner à Asuka.
D'accord.
Parce que je trouve que Asuka, elle est super over depuis le début du confinement, qu'elle a grave fait, qu'elle a été là toutes les semaines. Que peut-être que Shayna Baszler est un peu trop en mode je m'en fous, quoi. Un peu trop en mode Rana Foot. Et que peut-être que la japonaise, elle va peut-être mettre tout le monde d'accord, les points sur les i et les barres sur les t. Et je verrai bien la japonaise, je vais être confiant et je vais espérer que la japonaise nous sorte une grosse perf et gagne ce Money in the Bank match.
Elle deviendrait dans ce cas-là la première femme à avoir un Rumble et un Money in the Bank.
C'est
une belle possibilité, ouais.
Ouais, ouais, donc ça serait déjà. Et elle a gagné le titre individuel et le titre par équipe.
Oui, en plus.
Donc là, Asuka, ça la place dans les grandes, hein, quand même. Hein.
Ouais.
Et voilà, et de toute façon, hein, comme dit dans le point Gilbert précédemment, si ça devait être une seule nana de SmackDown qui devait gagner le Money in the Bank match, il faudrait que ça soit Lacey Evans.
Ouais, clairement.
Voilà. Mmh. Et voilà pour nos avis pour le match féminin et le dernier match, enfin, qui va se dérouler en même temps. Ils vont se dérouler en même temps. Donc, le Money in the Bank ladder match. Masculin, Otis versus Aleister Black versus Daniel Bryan versus Rey Mysterio versus AJ Styles versus King Corbin.
Eh ben écoute, là c'est plus dur je trouve, hein, parce que en soi tout est possible techniquement parlant. Hein, tout, il y a pas vraiment de même. Bon non pas Otis, non faut pas déconner. Otis non.
Ah,
Otis,
putain,
non Otis j'y crois
non
pas.
Non.
Corbin, je ne veux pas y croire et je ne veux pas. Et à mon avis, voilà, on peut se rassurer sur le main event là qu'ils nous ont donné. Il a vraiment eu l'air de, enfin voilà, toujours le combien heureux de son truc. Non, je pense pas qu'il redonne cette chance là à Corbin parce qu'il a pas. Enfin, il paraît qu'il est bien vu des officiels et tout, et c'est vrai qu'il a une bonne exposition, mais enfin, je pense que j'espère que tout le monde a compris qu'il est pas fait pour le. Pour le main event à long terme, ce garçon n'est pas fait pour être un champion du monde. Donc, mais derrière, c'est compliqué hein, parce que la période étant un peu étrange, ils peuvent tout à fait donner un second souffle à Rey Mysterio, comme je sais que tu aimerais, ou même à Daniel Bryan, même si j'ai un peu plus de doutes. Non, vraiment, moi, j'hésite quand même beaucoup entre Aleister Black et AJ Styles parce que AJ Styles n'est pas revenu pour rien, j'ai envie de dire, mais il est peut-être revenu juste pour donner... Un gros star power à l'affiche sans forcément gagner. Écoute, il y a quelques années, ça semblait évident pour tout le monde la fois où c'est Dean Ambrose qui a gagné et qu'il allait le remporter. C'était le favori. Il l'a remporté en étant le favori. Est-ce que Aleister Black peut remporter en étant le favori? Je vais le souhaiter, donc je vais pronostiquer Aleister Black quand même. Mais c'est pas gagné, il y a de l'indécision.
Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord qu'il y a une grosse indécision. Moi, comme toi, de toute façon, d'office, j'élimine Otis. j'élimine Corbin, comme toi, avec plein de pincettes.
Ouais.
Voilà, parce que c'est quand même du match, c'est le top heel du match. Hein.
Ouais.
C'est quand même tout le truc, quand même, dans cette carte, dans ce line-up du ladder match, là, c'est que c'est Baron Corbin, le top heel du match.
Ouais.
Et on en est là. Mais par contre, moi, du coup, il y a quatre mecs là, Rey Mysterio, pour toutes les raisons que j'ai déjà données dans que ça se... comment j'avais envisagé le fantasy booking du MIT match pour Rey Mysterio, donc je vais pas revenir dessus. L'arrivée de AJ Styles fracassante et qui est un candidat ultra sérieux à la victoire finale, quoi.
Clairement.
carrément, on impose direct. Hein, d'ailleurs, rien qu'en regardant là, tu vois là, l'image de la carte, voilà, en voyant la fiche du match avec les six rangs des mecs. Bah, tu vois, Jesta, tu dis, ouais, putain, lui, avec la mallette, je le vois très, très fort, quoi, tu vois.
Ouais.
Et Daniel Bryan, un ancien détenteur, et Aleister Black, un des énormes outsiders du moment, quoi. Donc, et un des gars qui est en plein push. Donc, le choix est très, très délicat, quoi. Alors, moi, j'avais déjà dit que Aleister Black était mon favori. Voilà, mon cœur irait à Rey Mysterio pour les raisons que j'ai déjà données, mais dorénavant, voilà, il y a la Daniel Bryan, je le mets un petit peu plus en réserve, je le vois pas trop en j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'avoir un programme aussi chargé que peut l'être parfois le programme du porteur de la mallette.
Ouais, non, je pense pas.
Donc, je le mettrai un petit peu en retrait. Et mais énorme point d'interrogation sur AJ Styles, hein, parce que franchement, je donnerais Aleister Black sur une cote à 40%, je mettrais AJ Styles à 30%, et puis et puis 10% sur Rey Mysterio, 15% sur Rey Mysterio, 15% sur Daniel Bryan, quoi. Donc voilà, allez, on va dire Aleister Black, je vais mouiller en mettant Aleister Black, mais là j'avoue qu'ils ont semé le doute dans mon esprit.
Ah oui, clairement, parce qu'on se dit, est-ce que Aleister Black, finalement, ça serait pas un peu trop tôt? Et est-ce que, par contre, AJ Styles, c'est vraiment le bon moment?
Et ouais, et puis c'est tellement la valeur sûre, ils l'ont fait revenir parce que les ratings sont complètement en train de s'écrouler, hein, parce que, faut le rappeler, hein, Raw a fait le pire rating de toute son histoire,
Ouais.
Et lundi dernier, et SmackDown s'annonçait sur des chiffres catastrophiques aussi, alors malheureusement, j'ai pas les chiffres à vous donner là. Mais il était annoncé un crash de toute façon. Donc on va pas se leurrer. Et donc clairement, AJ Styles c'est un besoin de retour de Star Power du côté de la WWE là.
Mystère, hein. Là, c'est bien joué pour le coup des pronos. Mais comme tu l'as souligné avec Corbin, qui c'est le seul top heel, c'est le seul vrai heel de cette. De cette carte, et du coup, je le vois presque. Je pense que ce match très bizarre, improbable, avec plein de gros spots, je le vois bien finir le pay-per-view plutôt sur un feel-good moment, là, avec un porteur de mallette positif. Et je pense que Corbin va pas mal être là pour le côté jubilatoire. Je pense qu'il va en prendre plein la gueule, Corbin.
Ouais.
Je le sens bien, et qu'il soit prêt, parce que là, des Elias qui vont intervenir, des Daniel Bryan qui vont le mettre un peu misère. Ouais.
Il risque d'être la victime expiatoire de ce Money in the Bank, quoi.
Ah là là. Eh oui.
Il en faut.
Bon, écoute, on a fait le tour du pronostic. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires, à nous donner vos favoris, vos chouchous, surtout pour ces fameux Money in the Bank match, hein, puisque Gilbert nous a pas. Gilbert nous dit que bon, son pronostic pour l'IC Event, mais pour le reste, il a l'air. Tout le monde a l'air circonspect, voilà, peuple de catch-up, nous n'en savons pas plus, et c'est pour ça qu'on regardera, mine de rien, on va quand même rester attentif à ce pay-per-view hors du commun. Finalement, bonne idée, hein, on peut dire, ce choix de profiter à fond de l'absence de public pour nous faire une histoire à travers tout le building, parce que ça va être de l'inédit. Alors, à voir si ça sera bon à tous les niveaux, c'est pas sûr. Nous, on sera là pour le commenter, donc n'hésitez pas à rester connecté, même si vous serez déconfiné. Eh ben, prenez les transports en commun, mettez vos masques et podcastez catch-up, et comme ça personne ne viendra vous parler, vous aurez votre distance de sécurité. Écoutez-nous sur iTunes, PodCloud, Spotify, on a les versions YouTube. Contactez-nous catch-up sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, et rejoignez notre Discord, c'est là que Gilbert nous pose ses fameuses questions, le Discord catch-up, on est de plus en plus nombreux, on y est bien. Eh ben, d'ici là, tonton Chris, ce fut un plaisir de faire ce dernier SmackDown, ce Go Home Show avec toi.
Tout pareil, mon bon Raphaël, hier.
Très bien. Eh ben, écoute,
du beau boulot, du beau double team.
Grave comme d'hab. Nous, on n'est pas dans le Fatal 4-Way Tag Team Division SmackDown, mais on mérite nos ceintures quand même. On mériterait, hein. On mériterait un petit titre. Allez.
Tag Team Catch-Up Championship.
Exactement. Tag Team Catch-Up Championship. C'est compliqué à dire.
Ouais.
Mais voilà, nous sommes les champions indéfinis tant que personne vient nous chercher des noises. On est prêt à défendre nos titres. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon dernier week-end confiné, un très bon pay-per-view Money in the Bank, on l'espère, de qualité en tout cas. Et puis bah, très bientôt pour une nouvelle semaine pleine de catch. Ciao les amis.
Salut Raphaël hier. Salut peuple de catch. See you Sunday, bitch!